3, 2, 1. Ils sont partis.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Good morning, Vietnam!
So, back to it.
Cours, Forrest, cours!
You know nothing, Jon Snow.
Programme double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépark. Né le 5 octobre 1952 à Liverpool, Clive Barker deviendra un romancier, un dramaturge, un scénariste de bande dessinée et de films, un peintre, un illustrateur, ainsi qu'un réalisateur tant au niveau théâtral que cinématographique. Ce sera au milieu des années 80 que Barker écrira The Book of Blood, une série de livres dans lequel il proposera un panorama du fantastique contemporain dont il évoque tous les aspects à chacune des nouvelles de ses recueils. Cette œuvre, dont chaque volume possédait entre 4 et 5 histoires horrifiantes, fera de lui le représentant le plus connu du mouvement Splatterpunk, un mouvement au sein de la fiction d'horreur qui est considéré comme une révolte contre l'histoire d'horreur traditionnelle et humblement suggestive et se distingue par sa représentation graphique de la violence, souvent sanglante, de son alignement contre-culturel et de l'horreur hyper-intensive sans limite. C'est dans cette série de livres de Clive Barker que l'on retrouvera des ouvrages qui inspireront la série des films Hellraiser, dont le premier film sera écrit et réalisé par Barker lui-même en 1986, ainsi que Lord of Illusion, qui mettra en vedette le détective Harry Damour et qui sera également adapté par l'auteur britannique. Ce sera également dans le cinquième volume de cette série de 6 livres anthologiques que l'on y retrouvera la courte histoire intitulée « The Forbidden » qui suivra Hélène, une jeune étudiante de l'université qui écrira sa thèse sur une série de graffitis se trouvant dans un quartier pauvre de la ville où elle se trouve et représentant un personnage de légende urbaine appelé Candyman. Ce sera en 1992 que sera adaptée cette courte histoire sur le grand écran, long-métrage qui obtiendra un certain succès et donnera alors naissance à une franchise composée de 3 suites dont le dernier film sortira tout récemment, cherchant à revitaliser cet univers fantastique. Donc, placez-vous devant votre miroir et préparez-vous à prononcer son nom 5 fois tout en écoutant l'histoire sombre et morbide du personnage de Daniel Robitaille, mieux connu sous le nom The Candyman.
No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome.
What is it?
Say,
what is it?
Hey, why, it's Buttercup. Popcorn and sweet cream butter, two hot popcorn. Mix it up, wrap it up, Buttercup is born.
It's delicious.
So nutritious.
It's a taste delight.
It's so munchy.
Crisp and crunchy.
You'll enjoy each bite. Eat butter-drenched Buttercup popcorn at its best.
Served in a king-size cup.
It beats all the rest.
Every drop of our Manuka honey holds the story of its origin. It begins in New Zealand, in some of the most remote parts of our country, where nature still thrives, untouched, and native Manuka trees can flourish. Here, in this pure land, you'll find our hives humming with energy and life, nurtured by four decades of beekeeping craft. Season after season, we've let nature be our guide, harvesting the honeycomb with care and tracking every precious drop as we cream and perfect. A unique process for a truly unique honey, bursting with the essence of its origins, drop after drop, and sealed with an independent guarantee of quality, so you always know that this is genuine UMF Manuka honey.
And now, on with the show.
Rated X.
Get more out of life. Go out to a movie.
Have you ever heard of Candyman? And if you look in the mirror and you say his name five times.
In cities everywhere.
Candyman?
They whisper his name.
Right. Candyman.
It's just a story.
Candyman?
Candyman.
Just a ghost story.
Candyman.
An entire community starts attributing the daily horrors of their lives to a mythical figure.
The legend first appeared in 1890. He was attacked, mutilated, and burned to death. Poor Candyman.
Helen, a woman died in there. Leave it.
Everyone knows he isn't real.
That's modern oral folklore.
Everyone. Except Helen Lyle.
Where did I...
It ain't safe around here.
That don't scare too easy.
Don't know about Ruthie Jean? They ain't never gonna catch him. Who? Candyman.
Helen.
Who is that?
I came for you.
Do I know you?
Now, she is about to discover.
Helen?
What's behind the mystery?
I'm sick.
What's behind the legend?
Listen, he's under the bed!
And most terrifying of all...
Come with me.
What's behind the mirror?
He's here.
Candyman, you don't have to believe. Just beware.
Candyman, un drame fantastique, produit et distribué par les studios Metro-Goldwyn-Mayer le 16 octobre 1992. Ce film américain d'une durée de 101 minutes coûtera 9 millions de dollars à produire et amassera plus de 25,8 millions de dollars sur le continent nord-américain. Au niveau de la réalisation, on y retrouve le metteur en scène britannique Bernard Rose, lui qui avait réalisé les films Paper House et Immortal Beloved. Au niveau de la production, on y retrouve Stephen Gollin, ce producteur américain qui avait travaillé sur les films Ruby, The Game et 51st Dates. Sigurjón Sveinbjörnsson, ce producteur islandais qui a travaillé sur les films Kill Me Again, Wild at Heart et California. Et finalement, Alan Poole, ce producteur américain qui avait travaillé sur les films Black Rain, Inside Out et Woman on Top. Au niveau de la scénarisation, eh bien, c'est le scénariste britannique Bernard Rose, lui qui avait écrit les scénarios de Anna Karenina, Frankenstein, la version de 2015 et The Two Jakes. Dans la distribution, on y retrouve Virginia Madsen, Tony Todd dans le rôle du Candyman, Xander Berkeley, Vanessa Williams, Cassie Lemons, Gilbert Lewis, sans oublier la participation spéciale de Ted Remy. Une jeune anthropologue spécialisée dans les croyances superstitieuses décide d'enquêter sur un meurtre commis dans un quartier pauvre de Chicago. Son intérêt est motivé par une rumeur voulant que ce crime ait été perpétré par un personnage légendaire nommé Candyman. En explorant l'immeuble où s'est déroulé le drame, la jeune femme est brutalement assaillie par des voyous dont le chef s'amuse à personnifier Candyman afin de terroriser les gens du voisinage. Mais le véritable Candyman, un être surnaturel, ne tarde pas à se manifester en commettant des crimes horribles dans l'entourage de la jeune femme afin de donner de la crédibilité à sa légende. Ce sera durant une rencontre entre le metteur en scène Bernard Rose et l'écrivain Clive Barker que le réalisateur britannique fit part de son intérêt à l'auteur pour adapter sa courte nouvelle The Forbidden sur le grand écran. Barker, qui venait tout juste de terminer la production de son tout dernier film, soit Nightbreed en 1990, acceptera alors de lui vendre les droits cinématographiques. Cependant, alors que l'histoire de Barker tourne autour des thématiques du système de classe sociale britannique, plaçant son histoire dans sa ville natale de Liverpool, Rose, lui, décidera de transporter l'histoire aux États-Unis, plus précisément à Chicago, après que ce dernier fut fort impressionné par l'architecture impressionnante des bâtiments de cette ville. Recevant l'aide des membres de la commission cinématographique de l'Illinois, le réalisateur commencera alors à explorer Chicago et découvrira alors le petit quartier de Cabrini Green, un projet d'aménagement urbain reconnu pour sa pauvre qualité de construction ainsi que son haut taux de criminalité du secteur. De plus, désirant explorer le choc des classes urbaines, Rose sera conquis par le fait que Cabrini Green se situait près d'un secteur bourgeois, permettant ainsi à son personnage principal, Hélène, de pouvoir regarder ce voisinage délabré à partir de la fenêtre de son logement très luxueux. Pour l'écriture de son scénario, Rose s'inspirera également d'articles écrits par le journaliste Steve Bogira, paru dans le Chicago Readers en 1987 ainsi qu'en 1990, article qui couvrait le meurtre de Rudy May McCoy, une résidence du quartier de Abbott Homes à Chicago, qui fut assassinée dans son logement en 1987 après qu'un ou plusieurs intrus aient pénétré par le cabinet médical de sa chambre de bain qui donnait au logement situé à côté. Dans la nouvelle de Forbidden, le nom de Candyman devait être dicté plus de 10 fois devant un miroir. Cependant, pour les besoins du cinéma, Rose décidera de descendre le nombre à 5 parce qu'il trouvait que 10 était beaucoup trop long. Après avoir terminé l'écriture de son scénario, Rose obtiendra son financement de la compagnie Metro-Goldwyn-Mayer et débutera alors la recherche de sa distribution. À l'origine, ce sera l'acteur Eddie Murphy qui fut le premier choix pour le rôle de Candyman, mais ce dernier s'avéra beaucoup trop dispendieux pour la production. Le fait de voir le réalisateur britannique venir travailler sur le territoire nord-américain amènera un véritable intérêt au niveau des différentes agences de casting. Cela amènera les acteurs Virginia Madsen et Tony Todd à être intéressés par le projet et montrèrent rapidement leur intérêt. Pour Madsen, cette dernière devait interpréter le rôle de Bernadette, tandis qu'Alexandra Pigg, la femme de Bernard Rose à l'époque, devait jouer le rôle principal. Pigg tombera alors enceinte, ce qui contraint celle-ci à abandonner le rôle et ainsi permettre à Madsen, qui était alors une amie proche du réalisateur et de sa femme, d'obtenir le rôle d'Hélène. L'actrice se voyant finalement enlever le personnage de Bernadette, qui fut alors transformé en personnage afro-américain. Si Madsen n'avait pas été disponible pour interpréter le personnage d'Hélène, l'un des producteurs, Alan Paul, avait alors envisagé d'embaucher l'actrice Sandra Bullock. Du côté de Candyman, eh bien, après avoir mis de côté Eddie Murphy, c'est Tony Todd qui obtiendra le rôle du personnage principal. Lors de son audition, le réalisateur fut vraiment impressionné par l'apparence de l'acteur, mais surtout par le fait que Todd ressemblait étrangement au dessin qu'il réalisa pour son découpage technique. Du haut de ses 6 pieds, Todd était parfait pour interpréter le meurtrier surnaturel, mais l'entourage de ce dernier était quelque peu inquiet, dû principalement au risque élevé de recevoir de multiples piqûres d'abeilles durant la production. Que cela ne tienne, Todd se mettra au travail et créera lui-même toute l'histoire de fond du personnage de Daniel Robitaille, dont le passé n'avait nullement été touché par l'auteur Clive Barker dans la nouvelle. De plus, Todd travaillera avec le designer Bob Keane sur l'apparence de son personnage et c'est lui qui aura l'idée du crochet à la place de sa main gauche, Todd proposant même à Keane que le personnage porte un cache-œil, ce à quoi s'opposera le designer. Le tournage se déroulera du 4 novembre au 28 décembre 1991. Trois jours de tournage se situeront dans l'ensemble de logements sociaux de Cabrini Green, alors que le reste se fera en studio dans la majorité des cas. Avant le début de la production, Tony Todd et Virginia Madsen se rendront à Cabrini Green avec une présence policière afin d'effectuer des recherches pour leurs personnages respectifs. L'événement allait être troublant pour les deux acteurs qui furent perturbés par ce qu'ils y verront. Afin de sauver de l'argent sur la production, Rose demandera au concepteur des effets spéciaux Martin Bresson d'utiliser des effets optiques traditionnels et non numériques. D'ailleurs, Bresson allait embaucher l'équipe qui avait travaillé sur le film de Ron Howard, Backdraft, pour réaliser la scène finale où un gigantesque feu extérieur sera conçu avec l'aide de plus de 1500 gallons de propane pour ce brasier qui devait être 70 pieds de haut par 30 pieds de large. Ce sera Norman Gary qui s'occupera des séquences impliquant plus de 200 000 abeilles véritables. Gary avait précédemment travaillé sur les films The Deadly Bees en 1966, My Girl en 1991 et Fried Green Tomatoes cette même année. La majorité de l'équipe de production était protégée des risques de piqûres d'abeilles grâce à des combinaisons. Lorsqu'il signa son contrat, l'acteur Tony Todd avait négocié un bonus de 1 $ pour chaque piqûre d'abeille qu'il recevait sur le plateau de tournage. Au total, l'acteur se fera piquer plus de 23 fois durant toute cette production. Pour la séquence finale, plus de 500 abeilles devront être placées sur le visage de l'actrice Virginia Madsen. Le problème, c'est que l'actrice était allergique aux piqûres d'abeilles. Le réalisateur s'assurera alors que des ambulanciers soient présents sur le plateau de tournage cette journée-là et, afin d'éviter que la jeune femme ne panique, Bernard Rose utilisera un hypnotiseur professionnel qui plongera alors Madsen dans une véritable transe. Au final, cela permettra à l'actrice de passer à travers ces moments difficiles et également d'apprendre qu'elle était finalement allergique aux piqûres de guêpes et non d'abeilles. Afin de s'assurer que les abeilles allaient rester sur place, le visage de Madsen allait être enduit de phéromones, une hormone qui fera croire aux abeilles que la jeune femme était une gigantesque reine. Il faudra plus de 45 minutes afin de retirer sécuritairement les abeilles de sur le visage de l'actrice. Du côté de l'acteur Tony Todd, cette scène fut plus complexe car Todd se devait de garder ses abeilles dans sa bouche. Afin d'éviter les piqûres dangereuses, un protecteur buccal sera alors utilisé. Plus de 30 minutes seront nécessaires afin de mettre les quelques 500 abeilles dans la bouche de l'acteur afro-américain. Toutes les abeilles utilisées pour ces scènes furent créées pour le film, ces dernières n'étant âgées que d'une douzaine d'heures seulement, donnant ainsi une apparence mature à ces insectes, bien que la force de leurs piqûres était beaucoup moins néfaste pour ceux qui en recevaient. Candyman aura sa première mondiale au Toronto International Film Festival le 11 septembre 1992. Suite à sa distribution, le drame fantastique verra son actrice principale récompensée. En effet, Virginia Madsen remportera le prix du public de la meilleure actrice au Festival international du film Avoriaz en 1993, ainsi qu'au Saturn Award de cette même année. Philip Glass, quant à lui, remportera également le prix de la meilleure composition musicale durant le Festival d'Avoriaz. Aujourd'hui considéré comme un classique, Candyman obtiendra une adaptation littéraire ainsi qu'un comic book et sera suivi de trois autres films, soit Candyman Farewell to the Flesh en 1995, Candyman Day of the Dead en 1999 et une suite directe au premier film qui sera produite en 2021. Du côté des points positifs, eh bien, dès les premières images, on comprend que l'on n'assiste pas ici à un slasher traditionnel, le visuel ainsi que la musique faisant une coupure drastique avec ce que l'on avait l'habitude de voir dans ce genre de film. D'ailleurs, Candyman est véritablement plus une lettre de noblesse du réalisateur britannique aux légendes urbaines qu'au slasher film. Loin de se complaire dans les visions gore et grotesques que l'on serait en droit d'attendre de la part de ce type de produit, le metteur en scène réalise ici une œuvre qui privilège l'angoisse et une atmosphère poétique tout aussi envoûtante que mystérieuse. Alors que la mise en scène est d'une qualité supérieure, c'est également le cas pour la distribution, tout spécialement l'actrice Virginia Madsen qui nous donne ici la meilleure prestation de sa carrière alors que Tony Todd est tout à fait magique et charismatique dans le rôle du Candyman. Le scénario est intelligent et l'histoire hypnotisante, le tout rehaussé par une imagerie originale et une trame instrumentale du compositeur Philip Glass qui est tout à fait hypnotisante. Le long-métrage prend le temps de s'arrêter sur son message au niveau des conflits de classe sociale sans que cela ne devienne lourd ou fatigant pour le spectateur. Finalement, lorsque le récit bascule enfin dans l'horreur, ce n'est pas pour céder à la mode du slasher en présentant une succession de meurtres gratuits, mais bien pour précipiter son héroïne au seuil de la folie, celle-ci se voyant endosser progressivement les meurtres du fantôme au crochet, au point de douter elle-même de sa propre innocence. Mais du côté des points négatifs, le fait qu'on n'assiste pas ici à un slasher habituel et que le gore fait place à l'histoire, Candyman pourrait quelque peu ennuyer les amateurs de scènes sanguignolantes et de meurtres crapuleux, notre personnage principal étant beaucoup plus tourmenté psychologiquement par un être surnaturel qui ne cherche qu'à faire valoir son existence à une société qui pourrait l'ignorer. Le film sombrera dans l'ésotérisme et le romantisme entre le personnage d'Hélène et Candyman, chose qui peut encore une fois ennuyer le spectateur qui, lui, est à la recherche de sensations fortes. Au finish, la conclusion nous laisse sur une séquence qui nous fait poser des questions sur ce qui est réellement arrivé au personnage de Candyman. Existe-t-il encore ou est-ce que ce dernier a été remplacé par une nouvelle légende urbaine? Il vous faudra attendre au film de 2021 pour avoir la réponse. Du côté de la trame sonore du film, eh bien, c'est le compositeur Philip Glass qui a composé la musique, lui qui avait réalisé les trames sonores des films Hamburger Hill, Secret Windows, Kundun et Candyman Farewell to the Flesh. Il faudra attendre presque 10 ans avant d'avoir la musique de Candyman disponible. Ce sera l'étiquette Orange Mountain Music qui sortira un CD le 21 septembre 2001. Et finalement, il y aura une édition en vinyle, une édition limitée à seulement 500 exemplaires, qui sera mise sur le marché par l'étiquette One Way Static Records le 4 novembre 2014. Je vous fais écouter ici la musique thème du film Candyman.
it's intermission. Rise and stretch time. Time to refresh yourself and visit our snack bar. Got a yen for hot popcorn? Your favorite soft drinks are sparkling cold. The juicy Frank's sizzling hot. There's delicious coffee freshly brewed. And all kinds of ice cream and candy to tempt you. Showtime will be announced loud and clear to get you back to your car in time. So stretch your legs. Come to the snack bar now.
Hi, folks. I'm Rico.
Oh, Nacho.
He's Peppy.
Si.
You can find us at the concession stand in the lobby.
Along with all sorts of other tasty goodies.
Si.
Rico's Nachos, a refreshingly new and different snack discovery. Chock full of high-quality ingredients, crisp, fresh tortilla chips, covered with creamy aged cheddar cheese, topped off with zesty jalapeno pepper rings. Rico's Nachos, out of sight.
Remember, folks, we're the new star at the snack bar. Rico's Nachos, a new taste treat you can't beat.
See?
Rico's Nachos, on sale at the snack bar now.
Get with the jug, man, get in the swing. All the ice cream is that cool zing. So make the evening a regular ball. Get the refreshment that's got it all. Cool, man, like ice cream. Get yours now.
It's new Zoom from Lion's Mane. New Zoom with three flavor stages have new picture cards. Start collecting famous cards. There's one free with every Zoom. On sale now.
What's your pleasure, sir or madam, and all you kiddies too? Sandwiches, freshly made from quality ingredients. Soft drinks, cool, tangy, and refreshing. A hot dog? There you are, tender, juicy, done to a turn with some fixings. Hamburgers, ma'am? Just the way you like them. Meaty, moist, and broiled to perfection.
The coming attraction.
And now, on with the show.
Rated X.
Get more out of life. Go out to a movie.
Candyman.
Candyman. Candyman. Selon la légende urbaine, Candyman. Si tu dis son Candyman. Nom cinq fois en te regardant dans un miroir, Candyman. Il apparaît derrière toi et il te tue.
Bon, ben, toujours vivante.
Allez, venez. Trina, t'as cassé la porte. C'est pas drôle!
Je me sens vraiment en phase avec ce quartier. Cabrini Green. C'était une cité. Je viens d'emménager, juste à l'angle.
L'ancienne usine de confiserie.
Je suis artiste.
Tu cherches Candyman? C'est le monstre qui fait partie de notre quartier.
Pourquoi ça t'attire ?
Je veux raconter cette histoire, tout sur Candyman. Le miroir vous invite à l'invoquer. Allez-y, dites son nom, si vous l'osez.
Candyman.
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 Non. Arrête-toi là.
Candyman.
J'aurais pas dû faire ça. Je l'ai ramené.
Candyman n'existe pas.
Non. Je sais pas ce qui m'arrive.
Il avait un projet pour toi. Il voulait t'embarquer dans une de ces horribles histoires.
Faut croire qu'il a su me prouver.
Je suis l'inscription sur le mur. La douce odeur du sang. Ma victime.
C'est pas réel, c'est pas réel.
Candyman.
Candyman, ou Candyman, le spectre maléfique, est un drame fantastique qui a été produit et distribué en salle par Metro Goldwyn Mayer le 27 août 2021. Ce film américain d'une durée de 91 minutes aura coûté 25 millions de dollars à produire et amassera plus de 77,4 millions de dollars au box-office international. Au niveau de la réalisation, on y retrouve la réalisatrice américaine Nia DaCosta, elle qui avait réalisé les films Little Woods et The Marvels, alors qu'au niveau de la production, on y retrouve le producteur américain Jordan Peele, lui qui avait travaillé sur BlacKkKlansman, Us et Get Out, Wynn Rosenfeld, ce producteur américain qui avait également travaillé sur BlacKkKlansman et la série télé The Last OG, et finalement, le producteur américain Ian Cooper, qui lui avait travaillé sur les films Us et Nope. Au niveau de la scénarisation, eh bien, c'est le scénariste américain Jordan Peele qui avait travaillé sur Keanu, Us et Get Out, qui écrira le scénario en compagnie de Wynn Rosenfeld, ce scénariste américain qui lui avait travaillé sur la série télé de 2019-2020 de Twilight Zone, ainsi que Nia DaCosta, qui, elle, avait travaillé sur le scénario de Little Woods. Au niveau de la distribution, on y retrouve Yahya Abdul Mateen II, Théonia Paris, Nathan Stewart Jarrett, Coleman Domingo, Kyle Kaminsky, Vanessa William, Rebecca Spence, Michael Hardgrove et Tony Todd dans le rôle de Daniel Robitaille. Un artiste peintre et sa compagne emménagent dans un luxueux loft construit sur l'ancien emplacement des tours de Cabrini Green, jadis un des sites les plus pauvres de Chicago. Au hasard de sa rencontre avec un vieil habitant du quartier, le peintre apprend alors la légende urbaine de Candyman, un tueur surnaturel qui apparaît dès qu'on prononce son nom 5 fois devant un miroir. Intrigué par cette histoire, l'artiste cherche à s'en inspirer pour composer ses nouveaux tableaux avec des résultats dramatiques. Candyman est officiellement le tout premier meurtrier en série afro-américain de toute l'histoire cinématographique du slasher film. Dès la sortie du premier opus en 1992, le drame fantastique sèmera une certaine controverse à cause de ses délimitations raciales, parlant notamment du climat social de racisme et de ségrégation urbaine dans lequel vivent les classes sociales pauvres américaines. C'est pour cela que lorsque le réalisateur britannique Bernard Rose aura l'intention de réaliser une suite à son long métrage, qui aurait été une sorte de prequel, l'action se situant dans les années 1800, où il se serait alors attardé à l'histoire d'amour entre le personnage de Candyman et de Caroline, cette femme du passé qui était un sosie parfait du personnage de Helen, les exécutifs de MGM, quelque peu frileux à l'idée d'une romance interraciale sur le grand écran, décidèrent alors d'abandonner le dit projet. Rose proposera alors par la suite d'autres projets de suite, mais aucun ne fut considéré par MGM puisque le personnage de Candyman ne faisait plus partie de ses différents projets, Rose ayant porté alors son attention au personnage de Helen. Finalement, Rose quittera la franchise et MGM ira de l'avant avec Candyman Farewell to the Flesh en 1995, qui aura alors un succès mitigé. Puis, l'échec commercial du troisième opus, Candyman Day of the Dead en 1999, forcera l'abandon de la franchise pendant quelques années. Arrivera en salle le film à succès Freddy vs. Jason en 2003. La compagnie Miramax désirera alors produire un crossover entre la franchise de Candyman et celle d'Hellraiser, mais l'auteur britannique Clive Barker portera alors son droit de veto sur le dit projet, ce qui annulera ce dernier. Par la suite, un crossover avec la franchise Leprechaun sera également considéré, mais cette fois-ci, ce sera l'acteur Tony Todd qui refusera de participer à ce projet sur le champ, trouvant le concept et le scénario complètement ridicules. Finalement, vers la fin de 2004, un quatrième opus sera alors envisagé, film qui devait alors se situer en Nouvelle-Angleterre et qui aurait focusé son histoire sur un professeur travaillant dans un collège pour jeunes femmes qui découvrira alors qu'il est un descendant du Candyman. Un budget de plus de 25 millions de dollars sera alors accordé au projet de long-métrage qui devait impliquer, à ce moment-là, l'auteur Clive Barker. Ce ne sera cependant pas avant 2009 que le réalisateur Dion Taylor sera embauché pour mettre en image ce scénario. Malheureusement, une dispute à cette époque au niveau des droits d'auteur mettra un terme à ce nouveau projet. Il faudra par la suite attendre jusqu'en 2018 avant que le producteur, acteur et réalisateur Jordan Peele annonce son intention de réaliser un nouveau film de la franchise via sa société Monkey Paw Production. Quelques mois plus tard, les compagnies de production Universal Pictures et MGM rejoignent officiellement le projet, Peele devenant scénariste et coproducteur avec Wynn Rosenfeld, laissant ainsi la place de la mise en scène du long-métrage à la réalisatrice afro-américaine Nia DaCosta. Le projet sera alors présenté comme une suite spirituelle au premier opus et l'intrigue se situera dans le quartier gentrifié de Cabrini Green à Chicago. Dans la première version du scénario, Hélène devait être la vilaine du film, mais DaCosta désira revenir aux sources du premier opus et décidera de revenir sur les origines du personnage du Candyman. De plus, alors que le long-métrage de 92 débute sur un plan réalisé à l'aide d'un drone, une première pour cette époque, la réalisatrice, elle, décidera alors de mettre l'accent sur le monde inversé du miroir en débutant avec les logos des compagnies de production ayant financé le film à l'envers, mais également par une vision de la ville de Chicago, vue comme si on apercevait la réflexion de cette dernière à travers un miroir, la réalisatrice désirant démontrer à son auditoire qu'elle allait apporter une nouvelle vision à cet univers unique des années 90. Pour DaCosta, Candyman sera une occasion pour elle, ainsi que Jordan Peele, de parler de la violence raciale et comment cette dernière peut être au centre de la création de monstres meurtriers cherchant à réclamer justice pour les crimes inhumains faits contre eux. Pour les séquences de transformation corporelle du personnage principal, la réalisatrice sera grandement inspirée par le réalisateur canadien David Cronenberg ainsi que son film de 1986, The Fly. Dès le début, Tony Todd se montre intéressé et sera alors secrètement embauché. Lakeith Stanfield, qui avait déjà travaillé avec Peele sur Get Out, sera alors approché pour le rôle de Anthony McCoy, rôle qui ira finalement à l'acteur Yahya Abdul-Mateen II, acteur qui avait interprété le personnage du Black Manta dans le drame fantastique Aquaman en 2018. Vanessa Williams, dont la prestation du personnage de Anne-Mary McCoy dans le film de 1992 était son second rôle sur le grand écran, fera ici un retour dans le même rôle. Un autre retour dans cette franchise sera l'actrice Virginia Madsen, qui enregistrera alors quelques dialogues qui seront entendus dans ce nouvel opus, l'actrice n'apparaissant pas dans le film, sauf dans des images recyclées du film de 1992. Une fois la distribution complétée, le tournage, qui devait débuter au début de 2019, sera reporté au mois d'août de cette même année et se terminera en septembre dans la ville de Chicago, en Illinois. Candyman sera le premier film de la franchise à être tourné à l'aide de caméras digitales, les autres films ayant été tournés sur bobines de film 35 mm. Bien que l'écrivain Clive Barker ne soit pas impliqué sur cette production, Jordan Peele fera quelques hommages à l'auteur. Tout d'abord, le personnage Clive Fiveler, qui sera ici interprété par l'acteur Brian King, obtiendra son nom en hommage à Clive Barker, tout comme le fait qu'il y aura un couple homosexuel, Barker étant lui-même ouvertement gay. Au niveau des œuvres d'art, paraissant dans le long-métrage, toutes ces œuvres furent réalisées par des artistes afro-américains de la ville de Chicago. La production fera alors le tour des différentes galeries d'art de la ville pour choisir les différents peintres qui réaliseront les peintures présentées pour représenter la descente aux enfers du personnage principal. Le personnage de Daniel Robitaille, interprété par Tony Todd en 1992, était lui-même un peintre. Il fut donc normal que le personnage principal de ce film continue dans cette direction. DaCosta embauchera le compositeur afro-américain Robert A.K. Aubrey Lowe afin de recréer une musique qui serait unique pour cette nouvelle version tout en respectant ce qui fut réalisé dans la version de 1992. Le compositeur, fan de la version de 92 de Candyman et ayant également vécu à Chicago proche de Cabrini Green, acceptera rapidement l'opportunité et créera un univers musical terrifiant pour cette nouvelle version cinématographique. Afin de conserver le mystère autour de la production, le long-métrage sera alors tourné sous le titre « Say My Name ». Certaines séquences furent tournées dans le quartier de North Park ainsi que dans les derniers vestiges des maisons en rangée clôturée de Cabrini Green datant de 1942. De plus, cette nouvelle version de Candyman sera le tout premier long-métrage tourné dans l'enceinte du Musée d'art contemporain de Chicago. Le film comporte des séquences d'animation de marionnettes créées par la compagnie Manual Cinema. Ce sera le producteur Jordan Peele qui choisira de prendre le système des ombres chinoises afin de raconter les différentes légendes urbaines touchées dans le long-métrage et développera alors un produit final incroyable avec la compagnie de production théâtrale. La diffusion sur le web de la bande-annonce du long-métrage sera très populaire, cette dernière ayant été regardée par plus de 75 millions de personnes. La sortie de Candyman fut reportée à plus de 3 reprises à cause de la pandémie de la COVID-19. Devant sortir en salle en juin 2020, le film se verra présenté sur le grand écran en août 2021 et amassera plus de 77 millions de dollars au box-office mondial, tout en obtenant de très bonnes critiques tant au niveau des journalistes que des amateurs de la franchise. De plus, la réalisatrice Nia DaCosta deviendra la toute première Afro-Américaine à obtenir la première place au box-office lors de la sortie de son œuvre cinématographique. Lors de sa sortie en DVD et en Blu-ray, le film est disponible dans une version Director's Cut qui comprendra alors une conclusion différente que celle projetée en salle. Du côté des points positifs, eh bien, la réalisatrice nous donne ici un visuel soigné et travaille avec un scénario intelligent qui s'amuse avec les légendes urbaines, nous montrant à quel point ces dernières peuvent être transformées par la population d'une génération à l'autre. D'ailleurs, cette façon de traiter les légendes urbaines, soit avec l'aide des ombres chinoises ou encore avec la réflexion des miroirs et des mondes qui se trouvent de l'autre côté de ceux-ci, sont extrêmement originales, ce qui donne lieu à quelques séquences impressionnantes dans le long métrage, notamment la scène du meurtre du propriétaire d'une galerie d'art et de sa petite amie. Cette suite directe au premier film ignore les 2 autres films de la franchise sans pour autant manquer de respect aux amateurs en leur faisant croire que ceux-ci n'ont jamais existé. Jouant avec la perspective, la réalisatrice réussit à nous donner ici un univers autonome qui peut s'écouter même si l'on n'a pas vu le film original de 1992, ce qui lui permet de redonner un nouveau souffle à cette franchise vieille de près de 30 ans. Du côté des points négatifs, eh bien, le film manque quelque peu de focus ici et mêle quelque peu son auditoire. Je comprends l'idée du téléphone arabe et que les légendes sont modifiées par celui qui les raconte. Cependant, la réalisatrice nous montre en réel certains personnages de ces dites légendes, ce qui porte à confusion sur qui est le véritable Candyman. L'aspect du conflit culturel au niveau de la couleur de peau est vraiment trop dominant ici. On comprend qu'on veut nous passer le message du « Black Lives Matter », mais alors que d'autres films et d'autres séries télé ont déjà utilisé ce type de médium pour nous présenter ces réalités de notre existence, on se demande si cela était vraiment nécessaire de mettre l'emphase là-dessus encore une fois. De nouveau, les amateurs de scènes sanglantes seront quelque peu déçus ici. La réalisatrice semble nettement plus à l'aise dans les moments dramatiques que dans les scènes d'horreur. Donc, la violence est très discrète et le rythme est très lent, le visuel et l'histoire étant beaucoup plus importants ici que l'hémoglobine à outrance. Cependant, quelques scènes choc devraient quand même néanmoins combler d'aise les amateurs du genre. La musique est réalisée ici par le compositeur Robert A.K. Aubrey Lowe, lui qui avait fait la musique des films Last Kind Words, Old Man Carmentine et Miss Lovely. On peut retrouver pour les trames sonores 2 singles qui ont été faits en digital, soit The Sweet qui a été sorti par l'étiquette Waxwork Records le 23 août 2021, ainsi que Candyman Rose and Towers, toujours par les étiquettes Waxwork Records le 17 août 2021. Et on aura droit, bien sûr, en CD et en vinyle à la trame sonore du film Candyman, qui sortira le 27 août 2021 sous l'étiquette Waxwork Records. Je vous présente ici un extrait de cette trame sonore de Candyman. Thank you. Au niveau des cotes artistiques, eh bien, Mediafilm a coté le premier Candyman 4. Moi, j'y vais avec un 3, un film qui a très bien vieilli avec le temps. À l'origine, le film était coté 16 ans. Il est rendu 13 ans indicatif. J'y vais également avec un 14 ans pour la violence. Ça, c'est ce que nous donnait la régie du cinéma. Du côté de Candyman, édition 2021, Mediafilm cote le film 4. J'y vais également avec un 4. Je pense que, justement, le fait qu'on ait plusieurs Candyman dans ce film-là puis qu'ils ne sont pas vraiment bien expliqués, ça mène un petit peu à la confusion face à savoir lequel est lequel et pourquoi ces Candyman-là ont les mêmes pouvoirs que Daniel Robitaille. Donc, à cause de la mauvaise explication, je descends un petit peu ma cote, mais ça demeure quand même un produit qui est nettement supérieur à ce genre de film habituel. Au niveau de l'âge et du contenu, eh bien, la régie du cinéma a coté le film 13 ans indicatif. J'y vais également pour 14 ans pour quelques scènes de violence. Au niveau de la disponibilité en DVD et en Blu-ray, eh bien, Candyman est bien sûr disponible en français et en anglais, en DVD et en Blu-ray. Vous avez le Special Edition et vous avez également le Collector Edition en Blu-ray disc. Et pour la version 2021, eh bien, vous êtes capable d'avoir l'édition 4K, l'édition Blu-ray ainsi que l'édition DVD conventionnelle, donc également disponible dans les deux langues. Il existe également une édition Candyman 2 Movie Collection DVD, donc une édition qui est sortie sur le marché où vous avez le film de 92 ainsi que le film de 2021. Donc, si vous voulez juste avoir ces deux films-là et oublier les autres films de la franchise, eh bien, il n'y a pas de problème, sauf que cette édition-là, malheureusement, n'est disponible qu'en version anglaise. Et c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à Programme Double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions. De plus, vous y trouverez une icône pour m'envoyer un email afin de me remettre vos commentaires ou encore des suggestions de longs métrages dont vous aimeriez que je parle à l'émission. C'est à cet endroit que vous y trouverez également les explications aux différentes cotes que je donne aux différents sujets que j'aborde, que ce soit les cotes artistiques ou encore sur le classement au niveau de l'âge de visionnement. Finalement, je vous suggère également de vous abonner à la page Facebook de Programme Double afin de demeurer averti de la diffusion des nouvelles émissions à venir. De plus, il vous est également possible d'écouter mon autre podcast, Fantastica, une émission style radio où je parle avec mon co-animateur des diverses passions qui existent dans notre quotidien et qui est également diffusée une fois ou deux semaines. Je vous remercie donc de votre écoute et on se dit à la prochaine édition de Programme Double.
Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.